Vous écoutez RCV. 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 Vous écoutez.
Chers auditeurs, bienvenue sur J'enrage, votre émission féministe lilloise. Au programme de cette toute première émission du jour, Suzanne et moi allons vous présenter l'association. Donc l'association qui s'appelle J'enrage, qui a mis au jour cette émission de radio. Nous vous parlerons ensuite des événements sur l'île, puisque c'est une émission et une association qui se base sur l'île et qui a pour but de parler des événements qui se déroulent sur l'île. Donc nous allons vous présenter un petit peu les événements, séminaires, projections cinématographiques, etc. auxquels nous sommes allés dernièrement, ces deux dernières semaines, avec premièrement le cycle de rencontres féministes qui a été organisé à la librairie de l'Harmattan, avec une première rencontre avec Félix Beaujeau, Ewangé Épée et Stella Maliani Belkacem, qui nous ont présenté leur livre « Les féministes blanches et l'Empire ». Ça, c'était le 11 janvier 2013. La deuxième rencontre féministe s'est déroulée le 13 janvier avec Morgane Merteuil qui nous a présenté son ouvrage « Libérer le féminisme ». Et la dernière, c'était le 15, pardon. Et la dernière, le 17 janvier, « Les féminismes islamiques » avec la rencontre de Zahra Ali. Enfin, nous vous présenterons nous vous parlerons de la projection du film « Wadja » qui nous a aussi permis de rencontrer Haifa Al-Mansour, qui est la réalisatrice du film, donc qui est le premier film saoudien. Et enfin, un séminaire où nous sommes allés, c'était à Lille 3. Qu'est-ce que le genre ? C'était le titre de ce séminaire, et nous vous en parlerons aussi. C'était le 15 janvier. Donc voilà, sans transition, je laisse la parole à Suzanne qui va vous présenter l'association.
Bonsoir, merci Zab. Alors, J'Enrage, c'est d'abord un projet d'association qu'on a voulu monter avec Zab l'année dernière, parce qu'on était allé à plusieurs événements féministes, le Festival des Ordres l'année dernière, à plusieurs conférences, qu'on, de manière générale, on lisait des théories féministes et on en parlait entre nous, etc. Et on a voulu... En fait, on s'est rendu compte qu'il y avait peu de relais d'informations, que c'était difficile d'avoir accès à des informations assez rapidement, en fait, quand on s'intéressait au féminisme, de manière générale, au féminisme au pluriel. Et du coup, ça partait de là. Du coup, en fait, on voulait faire une plateforme. Qui puisse coordonner un peu tous les événements et donner rapidement les infos. Donc voilà, ensuite c'était pas seulement une question de calendrier, pas seulement faire un calendrier, mais aussi nous aller aux événements, dire ce qu'on en a pensé, faire un compte-rendu, et puis ensuite avoir une opinion de féministe, parce que c'est aussi ça, c'est nous on se situe en tant que féministe et non pas d'un point de vue objectif, ça c'est lié aussi un peu à toute la tradition épistémologique du féminisme, hein, on est toujours situé et donc nous on est féministe et voilà, et donc le webzine a été créé et
voilà, donc à partir de cette première idée de création de plateforme qui centraliserait toutes les informations concernant les événements qui ont lieu sur l'île, on a eu l'idée aussi de créer un webzine qui traiterait exactement des mêmes thématiques, qui présenterait des comptes rendus des conférences, des séminaires, etc. auxquels nous serions allés, mais aussi présentation de...
Des festivals, des spectacles, exactement. Des performances, ça concerne aussi les événements artistiques.
Et puis on a eu enfin l'idée de faire une émission de radio avec RCV celle-ci c'est notre toute première émission de radio.
Du coup peut-être dire ce qu'on entend par féminisme, aborder peut-être les premiers concepts, les concepts centraux et voir un peu il y a quoi comme enjeu derrière.
Est-ce que notre association entend par genre, par sexualité au pluriel, par féminisme, pour que vous sachiez un peu où nous situer dans l'agenda féministe.
Ouais.
Donc déjà, je vous propose de commencer avec la notion de genre.
Ouais. Vas-y. La notion de genre, donc on va... Comme on n'a pas on n'a pas vocation à sortir un tatatatata théorique qui viendrait de nous, etc. En fait, en gros, on a pioché dans les événements qui sont passés justement à Lille et notamment dans le séminaire qui a eu lieu à Lille 3, c'était vendredi dernier, vendredi 25 janvier. Et lors de ce séminaire, il y a donc qui s'intitulait Qu'est-ce que le genre ? Plusieurs professeurs, plusieurs universitaires sont intervenus pour essayer d'éclairer un peu ce concept. Et la première intervention a été faite par Cornelia Slavova, qui est une professeure de Bulgarie, bulgarienne, et qui est intervenue donc en anglais, donc je vais. On va essayer de voir un petit peu comment est-ce qu'elle a fait. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a fait une histoire un peu du genre de ce concept-là, a vu un peu son évolution à travers l'histoire. Ce qui nous permet, mine de rien, donc là je ne vais pas tout faire en détail, mais ce qui nous permet de voir qu'est-ce qu'on entend par genre, qui est un terme avec lequel les féministes se battent, enfin les théoriciennes féministes se battent, puisque, alors genre au singulier, au pluriel, est-ce que c'est un concept qui est lié à l'individu ou qui, de manière générale, désigne une institution, est une grille d'analyse conceptuelle ? Donc voilà, en fait, au départ, le genre, dans les années 70, on attribue la naissance de ce concept à Robert Stoller, qui est un psychiatre américain, qui a travaillé sur les intersexes et les transsexuels, et qui a donc, du coup, introduit ce concept pour le distinguer du sexe. Et donc, le sexe aurait trait, du coup, au corps et au biologique, et tandis que le genre désignerait ce qui est relatif, ce qui désignerait la...
L'identité.
La construction socioculturelle, en fait, finalement, du sexe. Pas forcément l'identité, parce que c'est pas forcément quelque chose de revendiqué, mais c'est ce qui apparaît, c'est ce qui se distinguerait du sexe. C'est-à-dire qu'en fait, le sexe
biologique
influerait, mais ne déterminerait pas le genre.
Et le comportement, donc.
Voilà, c'est ça.
Il y a aussi cette idée que, finalement, derrière le sexe biologique féminin et le sexe biologique masculin, il y a un certain comportement. Il y a une certaine attente.
Oui, c'est l'idéologie naturaliste qui attendrait d'une personne sexuée qu'elle ait des comportements masculins-féminins. Et donc, le masculin-féminin, ce sont les terminologies pour désigner le genre, c'est-à-dire ce qui est finalement construit et ce qui n'est pas induit par la naissance, ce qui n'est pas inné, en fait. C'est acquis.
C'est une notion qui a émergé dans les années 60...
70, ouais, 60, plutôt.
70, pardon. Suite à l'émergence aussi d'un espèce de mouvement en faveur des transsexuels, non ? De gens qui changent de sexe et qui finalement, ou pas du tout.
Ça, je pense que c'est un peu plus tardif parce que pour l'instant, c'est en lien avec des travaux faits par des psychiatres, donc c'est plutôt lié à l'histoire psychiatrique et du coup pathologique. Donc c'est aussi problématique parce que ensuite, les études et les mouvements trans, ce sont de même que les mouvements gays et lesbiennes, ce sont ont émergé en opposition
en
à ces catégories pathologiques. Du coup, l'histoire aussi du genre est forcément partie prenante d'une histoire un peu problématique, vu que c'est fait par un psychiatre qui a vu les intersexes, les transsexuels, et qui les a isolés dans des catégories psychiatriques. Donc, bien entendu, ça reste problématique. Donc ça, c'est une première définition du genre qui a été reprise par je ne sais pas combien de féministes et qui, en gros, dit de plus en plus le genre se distingue complètement du sexe, quoi. Le sexe, c'est le biologique, le genre, c'est ce qui est construit. Et du coup, le sexe, ça serait genre une espèce de catégorie neutre qui n'aurait aucune valeur et qui serait pré-sociale, quoi. Et ensuite, dans les années 80, début des années 80 et... à la fin des années 80, début des années 90, en gros, les féministes, elles sont revenues au sexe. Elles sont revenues puisqu'il y avait une distinction sexe-genre qui s'était faite. Et ben là, elles se sont dit, elles sont revenues finalement sur cette distinction, en disant ouais, mais le sexe lui-même, il est impliqué un peu dans ces discours, dans ces valeurs. C'est-à-dire que ce qu'on entend par sexe, c'est pas une espèce de réalité qui serait, qui existerait avant la naissance du monde, avant la naissance de la société, puisque le sexe, comme même mot, le terme linguistique, il est impliqué dans notre façon de parler, dans nos discours et tout ça, quoi. Du coup, par exemple, alors elle citait le travail de Thomas Laker qui, lui, a, dans La Fabrique des Sexes, a montré qu'il y avait, avant le XVIIIe siècle, un modèle unisexe, c'est-à-dire, finalement, notre modèle binaire qu'on connaît existant avec deux sexes, il n'a pas toujours existé, quoi. C'est-à-dire qu'il est aussi fonction d'une histoire, il a son ancrage historique, etc. Et en gros, on arrive à quelle idée ? L'idée qu'il n'y a pas un stade prédiscursif pour le sexe. comme le genre. Donc même le sexe, quand on dit sexe, eh ben c'est aussi des corps, discursifs inscrits dans le langage, etc. Inscrits.
Du coup, cette nouvelle notion de genre qui est apparue à la fin des années 90, c'est ça?
Début des années 90.
S'inscrit de nouveau dans une théorie différentialiste.
Non, pour le coup, justement, en opposition à une théorie différentialiste.
Ah, d'accord.
Parce que du coup, au contraire, si le sexe est lui-même construit, ça veut dire qu'il n'y a pas de réalité différentielle entre les... Il n'y a pas de binarité entre les sexes, en fait. Il n'y a pas nécessairement, hors stade sociétal, de réalité du sexe. Tu vois ce que je veux dire ? Enfin, il n'y a pas, c'est-à-dire que la réalité que nous on connaît, qu'il y a deux sexes, est elle-même, et le fait que le monde soit, notre monde, soit organisé en fonction de cette binarité, de cette dichotomie, de cette opposition, elle est elle-même historique, sociale et culturelle, et du coup, enfin, il n'y a pas de réalité de différence des sexes universelle, en fait. Enfin, universelle, naturelle, et encore
oui,
une
donc
fois...
c'est remettre finalement les deux catégories de sexe dans leur... Enfin, les renvoyer à leur condition de catégorie, donc de catégorie historiquement construite et socialement construite.
Ouais, c'est ça, exactement. Ouais.
Tout simplement. Ouais. Okay.
Et du coup, c'était un... Ouais. C'était intéressant parce que elle citait notamment une phrase de Rosa Braidotti qui disait If I am not sexed, I am not at all. Donc donc je traduis, c'est dire si je ne suis pas sexuée, je ne suis pas du tout. Ce qui veut dire en gros que le sexe, enfin le sexe est une condition d'entrée dans le monde, quoi. Mm. On peut pas exister sans être sexué. On peut pas exister sans se référer à les gens, la société nous force, nous impose un sexe, nous impose d'être sexué. On peut pas faire en dehors de cette situation. Et on est bombardé de discours autour de qu'est-ce que l'homme, qu'est-ce que la femme, voilà, et de symboles qui clignotent en mode des trucs hyper sexualisés, quoi. Bon, je vais pas relayer tous ces stéréotypes parce que c'est pas le but, mais bon, voilà.
Donc ça, c'était la deuxième notion de...
Ouais, c'est ça.
La deuxième définition de la notion de genre.
Ouais, dans un truc historique, quoi, un panorama historique, du coup. Et il y avait aussi un autre truc, je sais pas si tu te souviens, mais le fait que... Enfin, déjà, par exemple, donc ça, c'est une définition, on va dire, du concept. Et sinon, on peut avoir une définition... par exemple, genre, on l'entend, on le voit, on le lit au singulier, on le lit au pluriel. Qu'est-ce que ça implique ? Par exemple, genre, ça a été, quand même un concept. Enfin, c'est encore un concept beaucoup véhiculé au singulier, parce que par genre, souvent, on entend plutôt le genre féminin, parce qu'en gros, le masculin, ça serait un peu l'universel, quoi. Ça serait le neutre, puisque il n'est pas marqué, et celui qui est marqué, finalement, c'est le féminin, parce que c'est l'autre, quoi. C'est l'autre. On en revient encore à.
Je me souviens de ce que disait Françoise Binard au séminaire, où on était finalement comme des programmes d'ordinateurs. Il y a 0 et 1. Tous les ordinateurs sont programmés avec ces deux chiffres-là. Finalement, le 0 qui est pas, enfin, oui, considéré comme un chiffre quand même, mais. Ce serait le genre masculin, et finalement le 1 qui fait référence à ce qui est différent du 0,
ouais.
c'est le genre féminin, mais du coup qui serait défini en opposition, en contre-portrait ou quelque chose comme ça, du genre masculin.
Ouais. Et ouais c'est ça. Et d'ailleurs, Françoise Binard, c'était intéressant parce que elle, j'avais l'impression qu'elle était aussi dans une Elle parlait de sortir de la bicatégorisation des sexes, bicatégorisation sexuelle, et du coup, enfin là, on est aussi, enfin, on est un peu dans une transition entre ça aussi fait partie d'une transition féministe, on va dire, mais d'intégrer au genre les sexualités, c'est-à-dire montrer que le système de genre et le système des sexualités sont vachement liés. En gros, le fait de voir qu'il y a le genre féminin, genre masculin, c'est aussi En fait, les normes de genre sont liées aux normes de sexualité, c'est-à-dire qu'est-ce qu'une femme, qu'est-ce qu'un homme dans une société masculiniste, c'est d'abord être une femme hétérosexuelle et un homme hétérosexuel.
Voilà, c'est ça.
Et du coup, en fait, on renvoie, les normes de genre sont hyper liées à une hétéronormativité, ce qu'on entend comme hétéronormativité, etc. Et ouais, et Françoise Binard parlait pas mal de ça, vu qu'elle parlait de cette bicatégorisation sexuelle en disant on est toujours sur le modèle du 1-2-1-2-1-2 et qu'il y a un peu les études transgenres qui ont essayé de repenser autrement cette bicatégorisation systématique. Mais finalement, on est toujours redevable encore maintenant d'un héritage bicatégoriel, je sais pas quoi, et des sciences néo-darwiniennes du style la sociobiologie qui font des trucs du genre on est comme les animaux, ça te rappelle, on peut être comparé aux animaux. Et du coup, on peut analyser les comportements humains comme ça.
Voilà. Ça, c'était pour le genre. Donc, je voudrais juste rappeler aussi quelque chose qu'avait dit la première intervenante, Cornelia Slavova. C'était justement cette superposition des identités, où on voit bien clairement la construction des différentes identités possibles. Donc, elle parlait d'identité du sexe biologique. Donc là, c'est finalement, ça fait référence à nos organes génitaux. Donc mâle et femelle, pardon, l'identité sociale, mais toujours dans cette même bicatégorisation finalement.
Ah, sexe social ou sexe biologique?
Voilà,
c'est ça,
le sexe social et le sexe biologique qui étaient donc homme et femme, et finalement ce que elle appelait le genre, qui était l'identité de genre, c'était ce qui avait attrait au féminin et au masculin, mais finalement c'est deux catégories qui renferment tout un système de ces deux systèmes de valeurs en gros, qui sont associés à deux pôles, le pôle féminin et le pôle masculin. Mais bon, après, c'est pas des catégories non plus. Nous, ce qu'on veut, un des objectifs de notre association et des discussions qu'on va avoir, que ce soit sur le webzine ou dans la radio, c'est aussi montrer que finalement, ces bicatégorisations, elles sont pas, c'est pas deux boîtes dans lesquelles on est et desquelles on peut pas sortir. C'est plutôt deux pôles et on peut aller d'un pôle à l'autre et, voir détruire ces deux pôles et qu'ils disparaissent et qu'on soit ce qu'on est finalement.
Ouais. Ouais, mais là, on voit bien la différence. Je pense pas qu'on puisse vraiment sortir de.
Mais on voyait bien dans cette théorie, mais dans son explication, la différence entre ce qu'était le genre finalement et ce qu'était le reste qui avait attrait au biologique ou même au sexe social.
C'est intéressant d'ailleurs ce que tu dis, parce que ça me fait penser à l'intervention. En fait, je rappelle, je sais pas si on l'a bien précisé, mais là, on est en train de parler de notre association en lien avec un séminaire qu'on a vu. À Lille 3, à la Maison de la Recherche, ouais, on l'a dit, je crois, et c'était, enfin, je le rappelle, et c'était sur le titre, enfin, c'est l'intitulé, c'était Qu'est-ce que le genre ? C'est ça. Et vous pouvez retrouver d'ailleurs sur notre blog.
Donc voilà, en fait, on parlait de ça pour vous expliquer un peu les thématiques que nous on va traiter dans notre émission de radio et qui sont des thématiques que veut aborder l'association de manière générale. Et en émission de radio et en webzine, il y avait le genre, de quoi on parle dans
des sexualités
en règle générale. Donc, on s'inscrit dans une dynamique qui recherche à remettre en question finalement la pseudo unique sexualité qui est celle de la majeure partie des gens et qui serait et qui met les qui classe les autres sexualités au rang de minorité, qui est la sexualité hétérosexuelle, mais qui finalement nous on considère n'est pas juste une sexualité. Je pense notamment à l'ouvrage de Monique Wittig qui parle, c'était queer, la théorie queer.
La pensée straight, pardon.
Qui place la sexualité hétérosexuelle, qui la considère comme un régime complètement.
Comme une institution, ouais, voilà. Vraiment, ouais, c'est ça.
Et on en reparlera dans d'autres émissions de radio. Mais donc, voilà nos thématiques un peu, les thématiques qu'on va traiter dans cette émission de radio et sur le blog.
Peut-être
genre, sexualité.
Ouais.
Et donc, sexualité, on parlera des sexualités, pas d'une seule. Et on essaiera de s'inscrire dans une dynamique de rendre visibles les sexualités qui sont... cachés dans la société, cachés ou minoritaires en tout cas, et donc qui sont considérés comme inexistantes des fois ou marginales tout simplement, mais marginales dans le mauvais sens du terme, qui sont différentes de la norme et donc soit n'ont pas lieu d'être, soit ne sont censées avoir aucune voix politique, par exemple.
Les identités de genre également.
Voilà.
Qui sont, on va dire, les identités trans, qui sont, qui traversent un petit peu cette catégorisation binaire, encore une fois, des genres.
Qui est une identité subversive, finalement, parce que justement, elle outrepasse la bicatégorisation.
Jusqu'à un certain point, bien sûr, parce que on peut, enfin, le système de normes hétérosexuelles et de genre sont très puissantes. Enfin, c'est-à-dire qu'elles elles investissent un peu tous les corps, tous les domaines, toutes les institutions. Donc, c'est pas comme si on pouvait vraiment en sortir, mais voir un petit peu mettre en relation un système, la critique des normes de genre avec des performances, des réelles performances de genre, etc. Des performances trans ou des performances autres, féministes.
Et enfin, notre association traitera aussi de thématiques liées à la condition féminine et à l'amélioration de cette condition féminine, que fait aussi d'autres associations, mais nous on est là aussi pour en parler. Quand je parle de conditions féminines, je me réfère à des choses comme on a pu entendre lors du séminaire le fait d'introduire la notion de genre dans l'espace des discussions organisées par l'ONU tous les 10 ou 5 ans ou qui ont pour but d'améliorer les conditions soit du tiers monde soit de la femme etc dans le monde. Je me réfère donc là on n'est plus dans justement la remise en question des normes, on est dans une amélioration pratique de la condition de la femme en règle générale. C'est aussi quelque chose qu'on va vouloir traiter dans notre émission.
Ouais. Et d'ailleurs puisque on va ensuite passer à autre chose, c'est le moment pour dire que être féministe c'est aussi pour nous c'est aussi ça croise également forcément d'autres formes de programmes politiques avec lesquels il faut être en dialogue et non pas s'opposer. Et le truc, c'est que il y a parfois, et c'est ce qu'on va voir, des récupérations racistes du féminisme. Et c'est ce à quoi qu'on travaille à critiquer. C'est-à-dire contre toute forme de récupération raciste, contre un discours, contre un féminisme colonialiste, post-colonial, impérialiste, etc. Enfin, on peut décliner un petit peu les terminologies et après on pourra voir un peu ce qu'elles impliquent. Voilà, donc ça c'est aussi important de dire que donc le féminisme, c'est un terme qui se décline au pluriel et enfin qui est pluriel et du coup, nous au fur et à mesure des émissions, peut-être qu'on définira un peu plus précisément ce qu'on entend nous par féminisme un peu plus.
Voilà, exactement. Donc là, on vous propose tout de suite Peaches Gay Bar, une petite chanson avant de passer à la suite où nous parlerons de ce cycle de rencontres féministes auquel nous sommes allés à la librairie de l'Harmattan. Girl, I wanna take you to a gay bar. I wanna take you to a gay bar. I wanna take you to a gay bar, gay bar, gay bar. Let's start a war. Let's start a nuclear war. At the gay bar, gay bar, gay bar. Something to put in you. I got something to put in you. At the gay bar, gay bar, gay bar. Let's start a
something to put in you. I got something to put in you. At the gay bar, gay bar, gay bar.
Voilà, nous sommes de retour. Maintenant, nous allons parler de ce cycle de rencontres féministes qui a eu lieu le 11, 15 et 17 janvier. Non, le 13, 15 et 17 janvier, pardon. Cette première rencontre, c'était avec Félix Bojo Ewangé Epé et Stella Maliani Belkacem, qui nous ont présenté leur livre « Les féministes blanches et l'Empire ». Donc, ça a été une rencontre très très intéressante qui nous a ouvert les yeux, enfin en tout cas à moi, qui m'a fait connaître finalement ce que eux appellent un féminisme hégémonique, qui finalement est un courant de pensée féministe qui est celui du monde occidental, mais qui finalement vient avec ses gros sabots dans d'autres zones, dans d'autres espaces qui ne sont pas l'espace européen ou états-unien, et qui vient plaquer en gros ses critères de société, donc qu'est-ce qu'une société, etc. Qu'est-ce que c'est une femme libre selon ses propres critères de société, et ce genre de choses, mais sur des réalités qui sont complètement différentes et qui sont absolument pas comparables l'un avec l'autre. Du coup, ils remettent en question, donc avec ce féminisme hégémonique, ils remettent en question finalement un espèce de féminisme qui est colonialiste, qui est un féminisme dont parlait Suzanne juste avant, qui a été notamment pendant les guerres, la guerre d'Algérie par exemple, qui a été finalement un féminisme qui a été instrumentalisé par certains politiques, qui se sont mis de toute façon, c'était d'un commun accord avec les féministes françaises et les ministres de l'époque qui sont intervenus. Et donc de ce commun accord entre féministes et politiciens, il y a eu une justification de la colonisation de certains pays comme l'Algérie par exemple. Il y a eu des cérémonies aussi de ce qu'ils appellent dévoilement, qui sont en fait des cérémonies où des femmes ont été dévoilées sous couvert du féminisme, et donc en gros les dévoiler ce serait les libérer du joug du machisme qu'il y a dans des pays musulmans.
Et ça ils l'ont, parce que en fait ils ont
parlé de l'Égypte aussi, je me souviens, avec le... En fait, ils sont partis de...
En fait, ils sont partis d'une histoire critique des féministes.
Voilà, c'est ça, exactement. C'est une critique des féminismes blancs,
ouais,
c'est-à-dire occidentaux, qui finalement essaient de s'exporter dans des pays orientaux et ouais, qui sont rejetés en bloc parce que justement, ils prennent pas en compte des réalités qui sont complètement différentes, notamment la religion.
Ouais, notamment la religion, ouais. Parce que par exemple, ils ont fait ce qu'ils ont rappelé comme contexte récent, c'est la loi qui a été faite en 2004 sur le voile et l'interdiction de porter le voile, et qui a été réappropriée par des féministes qui se sont revendiquées, et puis même par la droite qui s'est revendiquée féministe à un moment donné bizarre pour justifier un agenda raciste et ce que eux définissent comme impérialiste.
Et c'est ce que t'appelais récupération raciste du féminisme.
Ouais, c'est en référence à un article qu'ils ont écrit, là j'ai pas la référence précise, mais je crois qu'ils ont écrit un article, c'était une formulation qui ressemblait à ça. Et en fait, c'est pour ça qu'ils ont fait une histoire critique. Ils ont essayé de faire une petite histoire critique un peu de ces féministes qui s'appellent les féministes blanches, quoi. Puisque en opposition à non-blanches, puisqu'en fait, dès les débuts, dans les années 20, avec les suffragistes, les suffragettes, il y a eu quelques assos qui étaient très problématiques et qui étaient déjà super colonialistes dans leurs entreprises et qui étaient féministes, enfin, comme là il citait, je crois, le comité d'action sociale de solidarité féminine qui en fait mettait en place en Algérie dans les années 20 une guerre contre le voile pour essayer de dévoiler ces femmes opprimées. Donc on retrouve déjà des problématiques dans les années 20 qui font écho un peu aux nôtres dans les années 2000.
Donc en fait, oui, c'est ça. En fait, leur intervention, elle était là pour mettre à jour finalement une espèce de coalition tout à fait conjoncturelle entre un agenda féministe et un agenda politique, à des fins
un agenda réactionnaire ou politique réactionnaire machin
voilà exactement
ouais.
Et donc une association de groupes politiques qui a priori n'ont rien en commun voire dont l'association serait contradictoire puisqu'ils n'ont pas ils ont des valeurs qui sont en opposition. Donc par exemple une droite réactionnaire et un groupe féministe progressiste par exemple. Et donc ces deux groupes d'un jour à l'autre font une coalition sous couvert du féminisme pour intervenir dans tel ou tel pays.
Ouais, c'est ça. Ouais, du coup c'est plus généralement l'institutionnalisation de certaines catégories qui sont politiques et historiques que les auteurs pointent du doigt quoi, parce que par exemple ils donnaient, comme tu disais l'affaire en Égypte du Queen Boat, ils donnaient cet exemple là pour critiquer l'institutionnalisation des luttes LGBT parce que les associations l'inter LGBT ou l'idée d'une solidarité entre associations les pays occidentaux et enfin d'autres pays qui n'ont pas cette histoire des luttes pour les droits sexuels là ça donnait des affaires un peu problématiques. Il citait celle du Queen Boat là où il y avait où l'État égyptien est venu réprimer en fait des personnes qui étaient dans le Queen Boat et qui donc avaient des pratiques homoérotiques, et l'LGBT a directement c'est ACT UP qui est intervenu pour défendre ces personnes-là en accusant l'État égyptien d'un État violent, fasciste, enfin je sais pas
De crimes contre l'humanité
de crimes contre l'humanité, je suis plus sûre exactement ce qu'il y a de c'est possible.
Bon, bref, ils sont venus pour apporter leur soutien parce qu'il y a eu un procès en justice parce que justement ces Égyptiens qui étaient sur le bateau ont intenté un procès pour essayer de se défendre. Et finalement, donc ces associations LGBT ont voulu les soutenir et vu que ce groupe d'Égyptiens qui se défendaient se réclamait pas justement d'un quelconque groupe politique ou même culturel qui a à voir avec l'homosexualité, ils ont en quelque sorte rejeté cette aide extérieure des associations LGBT, et ça a desservi leur cause vu que eux ils voulaient juste il me semble que en gros pour leur défense ils faisaient appel à la liberté de la sexualité en règle générale, des pratiques sexuelles mais qui ont à voir avec qui doivent rester dans le domaine du privé, et là en l'occurrence le fait d'être soutenu par des groupes de défense des droits homosexuels, ça les étiquetait directement comme homosexuels et ça les a desservis durant le procès, il me semble.
Ouais, c'est ça, quelque chose comme ça, parce qu'ensuite ils ont été d'autant plus réprimés par l'État égyptien qui a augmenté ses politiques répressives, etc. Donc ça a pas.
Et donc grâce à cette intervention. Grâce à cet épisode, Félix Boggio, Ewangé Paché et Stella Maliani Belkacem, j'espère que j'ai pas trop écorché les noms, expliquaient justement ce que c'était cette sorte d'impérialisme occidental qui venait à la rescousse des minorités opprimées d'Orient, mais qui finalement, dans ce cas-là...
Ne sont pas constituées comme minorités, et c'est bien ça le problème.
Voilà, exactement.
C'est-à-dire que on peut pas, ils n'ont pas cette grille hétéro-homo que nous on a. Enfin, je veux dire, nous, elle est
des catégories qui sont purement européennes de construction et historico-politique et qui n'ont pas lieu d'être dans d'autres. Voilà, c'est ça exactement. Dans d'autres espaces-temps, je me souviens de ce concept qu'ils avaient développé qui était que je trouvais vachement intéressant, c'est-à-dire que c'est pas dans une dynamique purement relativiste de on doit accepter tout en bloc, c'est pas du relativisme absolu, mais en gros leur idée c'était que dans le monde il y avait plusieurs espaces-temps, que tout le monde n'était pas qu'il n'y avait pas non plus une nation ou un type de société qui était plus évolué que les autres, mais justement qu'il y avait d'autres, enfin qu'il y avait une pluralité d'espace-temps avec une pluralité de sociétés à des degrés différents, mais pas sur une seule échelle unique, du progrès en termes de droits à la personne ou de droits sociaux. En ce qui concerne tout ce qui est sexualité et conditions de la femme.
Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que je trouve que leur livre permet bien de faire une transition avec les deux autres livres dont on peut parler. Le féminisme islamique, tu allais voir Zab, tu peux peut-être en parler.
Donc ouais, c'était la troisième rencontre, féminisme islamique, qui est un livre qui a été écrit par Zahra Ali, qui est doctorante à Paris en ce moment. Qui était très très intéressant parce que justement elle nous incitait en gros à nous-mêmes et de manière générale dans le monde à faire une espèce de récupération de certains courants féministes qui existent ou de la place de la femme en manière générale dans les diverses sociétés qui existent dans le monde, qui ont complètement été effacées, et notamment et d'autant plus d'ailleurs dans tout ce qui est dans le monde oriental de manière générale, où on a l'impression que la femme a jamais eu aucun rôle politique, culturel et social est une femme complètement dominée qui n'a le droit de rien faire, quoi. Et du coup son ouvrage, donc, qui s'appelle, je le rappelle, Les féminismes islamiques, mettait en valeur justement ces initiatives qui provenaient de femmes qui visait à améliorer la condition des femmes dans les pays orientaux, et elle parlait aussi, mais surtout, en fait, on va reprendre depuis le début, son ouvrage parlait de comment marier à la fois religion et féminisme, parce qu'en gros, elle expliquait que dans notre féminisme, on va dire occidental, tout le contraire, et on avait beaucoup de mal à associer et religion et progressisme social, on va dire. Et du coup, ça posait problème parce qu'on partait du principe, de l'axiome que religion était égale à archaïsme et que la condition de la femme ou même des hommes en règle générale ne pouvait pas être améliorée puisque la religion est un moyen d'oppression et point barre. Et donc elle, à partir donc de la dynamique tout à fait contraire qui est celle qu'elle expliquait, c'est-à-dire que à partir du religieux et de la religion, donc on peut justement s'inscrire dans une dynamique de progressiste de défense des droits et de l'égalité entre hommes et femmes et entre les hommes et les femmes sur le monde, enfin de manière générale, entre races par exemple, parce qu'elle parlait de ça aussi. Je suis perdue.
Et donc du coup, mais c'est intéressant ce que tu dis parce que voilà, je suis pas allée à cette rencontre, mais en revanche, je trouve qu'il y a un lien. On peut faire un lien, en tout cas nous, avec la projection du film d'Aïfa Al-Mansour, Wajda.
Wajda, ouais.
C'était au Métropole, mercredi 20 janvier. Et c'était, il y avait voilà une avant-première, on a rencontré la réalisatrice saoudienne. Et donc pour une petite contextualisation, en gros c'est le premier film réalisé par une femme en d'Arabie Saoudite, et c'est le premier film saoudien diffusé qui est réalisé en Arabie Saoudite. Et en fait, le lien qu'on peut faire, c'est que, notamment en lien à cette idée de féminisme hégémonique, enfin ce féminisme des blanches, et ce dont tu parles, ce lien qu'on peut absolument faire entre religion et archaïsme, religion et tradition, et qu'on repousse en l'opposant foncièrement au progressisme, au progrès, en fait dans une forme de positivisme un peu là, et bien ce film, je trouvais qu'il était intéressant parce qu'en gros Wajda, c'est l'histoire d'une petite ça se passe fille. Donc ouais, une petite fille de, je sais pas,
12 ans,
ouais, 12 ans, et qui est élevée dans une famille type classe moyenne, enfin elle nous a dit c'est vraiment la famille, elle a pris un un modèle un peu majoritaire là-bas, enfin pas spécialement rare.
Oui, c'est ça, je me souviens d'une question, parce qu'il y avait une rencontre avec la réalisatrice juste après, c'est ce qui était intéressant, ouais. Une question qui revenait du public, est-ce que c'était finalement cette petite fille et cette famille, est-ce qu'elle représentait une minorité en Arabie Saoudite ou pas ? Et la réalisatrice, donc Haïfa Al-Mansour, disait que non, c'était une majorité. Et c'était intéressant parce que justement, dans ce film-là, elle questionnait justement ces paradigmes de religion, archaïsme.
Ouais, parce que en fait, ce qu'on voit, nous, qu'est-ce qu'on voit à l'écran ? Bon, ouais. On va prendre notre regard européen un peu et avoir peut-être essayer de le critiquer un petit peu ou voir qu'est-ce qu'il y a comme imaginaire derrière. Bah oui, c'est-à-dire l'Arabie Saoudite. Voilà, on se dit direct voile intégrale égale oppression suprême, etc. Et donc il n'est pas question de refuser en bloc cette hypothèse, c'est plus d'essayer de changer de regard et de pour une fois de pas parler à partir de nous Européens, mais de voir ce que produit une femme saoudienne. Enfin, je veux dire, c'est quand même incroyable. C'est là, c'est une femme saoudienne qui parle. Et elle montre que tout simplement, l'habit, le voile, oui, bon, certes, c'est dans un des paradigmes culturels qui nous sont complètement... qui nous sont quand même pour une bonne part étrangers, qu'on a du mal à totalement intégrer, à comprendre. Donc on y voit facilement les signes d'oppression. Et oui, c'est clair qu'il y a...
L'école où elle va, notamment, qui est l'école religieuse, pourtant qui est tenue par une femme aussi. Donc c'est pas l'oppression des hommes en règle générale sur les femmes.
C'est-à-dire que c'est deux mondes très, très divisés. Genre les femmes sont vraiment, vraiment entre elles et les hommes vraiment, vraiment entre eux. Mais
et dans cette école, elle reçoit un enseignement religieux très très sévère et qui leur interdit d'écouter de la musique sur cassette et ce genre de choses.
Oui, voilà. Mais disons que c'est ça.
Du coup, nous, en fait, c'est ça qui était intéressant dans le film, je pense, c'est qu'elle nous montre finalement l'image que nous Européens on a de l'Arabie Saoudite qui est sous qui vit une forme, que ce soit homme ou femme, mais particulièrement les femmes, surtout que les personnages principaux sont tous féminins dans le... Quoique, il y a le petit garçon aussi, l'ami de la petite fille, qui est un des personnages principaux. Mais bref, donc en gros, elle nous montre l'oppression des femmes par la religion et par les hommes. Donc ça, c'est ce que nous, on s'attend à voir. Mais finalement, elle le fait d'une manière vachement délicate et elle arrive à écrire une espèce d'histoire sous-jacente à cette histoire d'oppression de la femme par la religion, qui nous montre que finalement la femme n'est pas complètement écrasée et qu'il y a différentes formes d'interprétation du religieux. Et elle nous montre finalement l'interprétation la plus dure et la plus extrémiste qui a lieu dans son école, par exemple, avec les textes, où elles doivent lire les textes sacrés et agir en conséquence, mais agir à la lettre. Et elle nous montre finalement la famille, celle de sa mère et de son père, bon, qui n'est pas souvent là, mais bon, qui agit d'une manière un peu plus différente et qui, elle reçoit une éducation beaucoup plus laxiste, finalement.
Oui, c'est ça. Du coup, peut-être que là, on va peut-être faire
une petite pause
et puis on va revenir sur. On va parler de la dernière rencontre, Libérer le féminisme de Morgan Merteuil et aborder encore un peu les questions de féminisme institutionnel, féminisme hégémonique, et ensuite on
passera
terminera,
à l'actualité de Lille.
Voilà.
Donc tout de suite, Sexy Sushi, la chanson Sex Appeal.
La policière me fait mouiller devant, derrière, le sexe à pile.
Voilà, c'était Sexy Sushi, Sex Appeal. Donc Zab, tu me diras un dernier mot sur les féminismes islamiques et puis ensuite on partira à Libérer le féminisme de Morgane Merteuil.
Voilà, donc juste pour revenir un dernier petit mot sur les féminismes islamiques. En fait, ce qui était très très intéressant dans cette rencontre, c'est que Zahra Ali nous expliquait comment finalement... Donc je vous ai parlé juste avant du fait qu'en Occident, on avait du mal à associer... mouvement progressiste ou révolutionnaire, on va dire, avec religion. Elle expliquait comment dans ce mouvement des féminismes islamiques, parce qu'il y en a plusieurs, il y avait justement ce retour au spirituel et en fait, elle faisait bien la différence entre interprétation des textes sacrés du Coran, les interprétations qui en avaient été faites, qui étaient machistes et qui plaçaient l'homme au centre de la société et la femme comme... sujet oppressé dans la société, et ces nouvelles interprétations qui viennent depuis les années 90 et qui ont été renforcées par le printemps arabe aussi, qui sont des mouvements sociaux qui sont en faveur des droits et de l'égalité entre hommes et femmes. Et donc à partir de ces divers mouvements, diverses dynamiques qui sont présentes en Orient, mais que bien sûr on invisibilise en Occident, il y avait un nouveau mouvement entre théoriciens de la religion, théologues et féministes, et groupes féministes, en Orient, qui se sont associés pour réinterpréter les textes et à partir de ces mêmes textes, non pas réinterprètent, mais considèrent que dans le texte en soi, il y a déjà la promotion de l'égalité entre hommes et femmes. Et que donc, finalement, c'était des mauvaises interprétations, des interprétations politiques, celles qui ont été faites et qui ont placé la femme sous l'oppression dans ces sociétés-là. C'était juste le point que je voulais récupérer et reprendre. Et enfin, pour finir, pourquoi je voulais juste expliquer aussi pourquoi elle appelait ça les féminismes islamiques. Premièrement, parce que c'est des féminismes qui naissent de l'islam même, qui prennent la base de leurs revendications et qui justifient leurs revendications et leurs luttes sur les textes de l'islam, mais aussi c'est ce qu'elle expliquait Zahra Ali, en réponse à l'islamophobie raciste occidentale et en retour du stigmate, elles utilisaient le mot islamique, qui, pour un occidental, finalement, signifie extrémisme tout de suite et oppression de la femme. Mmh. Et donc, par retour de ce stigmate qui leur est étiqueté à tort et à travers, elle se revendiquait d'un nouveau courant progressiste et qui luttait en faveur des droits et de l'égalité entre hommes et femmes.
D'accord.
Voilà, je te laisse la parole pour la deuxième rencontre.
Ouais, et en plus, on va pas complètement s'éloigner du sujet, même s'il n'est plus du tout question de féminisme islamique, mais il est encore question de lien entre féminisme et hégémonie, puisque idéologie et pensée dominante, c'est-à-dire quand le féminisme peut être à l'intérieur même d'une pensée de la domination. Et c'est ce dont Morgane Merteuil nous avertit dans Libérer le féminisme, qui a été publié en 2012 par les éditions La Fabrique. et libérer le féminisme. Morgane Merteuil, c'est qui? Alors Morgane Merteuil, c'est elle est secrétaire générale du STRAS, qui est le syndicat des travailleuses du sexe, et elle a écrit ce livre. Elle est travailleuse du sexe depuis 4 ans, un peu moins de 4 ans. Et pourquoi est-ce qu'elle a écrit ce bouquin? En réponse à un discours féministe dominant, on va dire, véhiculé par ce qu'elle appelle les féministes universelles, voilà, qui sont incarnées par certaines associations telles que dont on entend qui sont ultra visibilisées, comme Oser le féminisme, les chiennes de garde, Ni pute ni soumise, et dont elle dénonce une forme d'impérialisme et une forme de posture presque patriarcale, en fait, et autoritaire, du moins. Puisque elles disent, voilà, concrètement contre toute forme de prostitution, c'est-à-dire que elle considère que la prostitution est un des lieux de la domination, où s'exprime la domination masculine, et du coup elle lutte contre l'expansion de la prostitution au nom de la libération des femmes et au nom d'une idée, en fait, de l'émancipation.
Oui, c'est ça le problème, c'est qu'elles ont leur propre idée de la femme libérée, et c'est ça qu'elles défendent, mais elles prennent pas en compte les autres types de femmes libérées qui peuvent exister.
Exactement. Finalement. Et c'est un peu oublié, en fait, que
l'expression.
C'est ça. C'est que finalement, elles sont. En fait, elle fait. C'est pour ça qu'elle fait la plutôt fausse islamophobie, en disant que, voilà, elles sont contre les putes, de même qu'elles sont contre les voilées, quoi. Et puis, c'est les mêmes associations qui ont soutenu les lois sur le voile et qui sont en plus, comme par hasard, intégrées.
Au
système institutionnel, puisque Najat Vallaud-Belkacem, c'est donc là que je me trompe pas,
ministre
oui, ministre des droits des femmes, mais
et de la famille, je pense,
mais au sein de quelle association elle est, j'ai un doute. Il me semble que c'est dans Ni pute ni soumise, j'ai un doute là, donc à confirmer. Et voilà. Et donc, ce qu'elle dit, c'est que qu'est-ce qu'on peut dire de la prostitution? Elle se situe un petit peu dans la mouvance. Elle ne veut en aucun cas se réclamer d'un féminisme pro-sexe ou du féminisme matérialiste ou du féminisme queer, enfin, ou de la pensée queer. Elle s'inspire un peu des trois, mais en gros, ce qu'elle dit, c'est que on peut pas, de toute façon, dans toute sexualité a lieu des rapports de pouvoir, et de même que, enfin, c'est à dire qu'on peut pas dire des prostituées, enfin, on peut pas dire de celles qui on va dire marchandes de leur corps ou marchandes des services, parce que c'est ça qu'elle met en valeur, en fait. Elle considère le fait de proposer des services à des hommes. Là, j'utilise déjà son vocabulaire, voilà, comme un travail, quoi, et non pas comme un corps qu'on vendrait, ou je sais pas quoi, selon un vocabulaire un petit
d'ailleurs,
peu flou comme ça.
D'ailleurs, ça pourrait être intéressant de voir leur position sur les femmes porteuses, finalement.
Sur la GPA ?
Parce que c'est aussi un service, oui, finalement, c'est un service monnayé, mais c'est un service à la personne, quoi.
Ouais.
C'est, mais qui mobilise le corps.
Ouais, tout à fait. Donc là, pour le coup, enfin, c'est vrai qu'elles sont quand même réunies en syndicat, etc. Ouais. Donc là, enfin, c'est en plus.
Non, c'est une réalité complexe.
Ouais, voilà, oui, c'est ça. C'est, enfin, mais ouais, voilà. Enfin, elle allait jusqu'à. Enfin, disons ce qu'elle dit, c'est que. De manière générale, on ne peut pas dissocier. Les putes du reste, quoi. Enfin, je reprends ses propres termes. Mm-hmm. On peut pas dire que les travailleuses du sexe sont les seules qui sont sous le joug de la domination masculine et du patriarcat, parce que le patriarcat, il s'échelonne. Enfin, si on parle de patriarcat, si on utilise le terme patriarcat pour lire les rapports de domination genrée, dans ces cas-là, on enfin, il se diffuse à tout niveau sociale. Et donc, par exemple, quand les féministes de Oser le féminisme, Chaîne de Garde et Ni pute ni soumise disent, alors les prostituées, elles ne peuvent pas consentir, puisque pour consentir, pour qu'il n'y ait pas viol, il faut qu'il y ait désir, et il faut qu'il y ait, alors qu'il faut qu'il y ait désir et il faut qu'il y ait consentement. Morgane Merteuil répond, non mais qu'est-ce que vous entendez par désir? Vous croyez vraiment que dans toute sexualité, en tout lieu, les mecs et les nanas, enfin bref, dans des rapports bien normés, etc., ou même dans tout rapport, enfin je veux dire, toutes les sexualités ne peuvent pas se revendiquer libres, enfin ou se réclamer d'une certaine liberté qui serait prévenue de toute forme d'oppression et qui serait en fait le lieu de la prostitution là là où l'oppression serait. Donc on peut pas lier viol et désir aussi facile, aussi de façon aussi systématique. Ce n'est pas parce qu'on n'éprouve pas du désir qu'on se fait, enfin la différence est beaucoup plus
elle nuancée,
est beaucoup plus nuancée. Et même c'est pareil pour le consentement. Le consentement, enfin je veux dire, oui, alors bon, après il faut réintégrer, comme elle dit, il faut réintégrer le problème des violences faites aux travailleuses du sexe à l'intérieur des violences faites aux femmes, c'est-à-dire que ça devrait se construire sur la même logique.
Disons que je pense que le problème de la prostitution, finalement, c'est qu'il y a une superposition de formes de violence ou de formes de domination qui fait que la condition de ces travailleuses du sexe est très précaire et très très fragile, parce que justement il y a cette superposition de violences différentes qui viennent de
Elle conteste un peu ça pour le coup,
différentes.
Hein.
Qui c'est?
Morgane Merteuil.
Ok.
Enfin, elle le conteste pas complètement, mais non, mais t'as raison. Mais enfin, disons qu'elle, ce qu'elle veut dire, c'est que justement, enfin, elle veut pas opposer les prostituées qui auraient eu le choix et les travailleuses du sexe qui n'auraient pas eu le choix ou qui seraient opprimées et celles qui seraient libérées. Donc c'est un peu complexe.
Non, c'est pas ce que je voulais dire.
Mais ouais.
En fait, ce que je voulais dire, c'est par exemple comme le concept de lesbienne qui est doublement
opprimée
parce que elle est opprimée en tant que femme et elle est opprimée comme en tant que sexualité. Minoritaire, là en gros ce serait une superposition aussi de type, enfin elles auraient à vivre une espèce de superposition de violences différentes, mais qui proviendraient de sphères qui sont pas toutes exactement les mêmes. C'est-à-dire qu'elles souffriraient de la domination masculine en tant que travailleuse du sexe, elles souffriraient de la violence masculine et de la domination masculine en tant que travailleuse précaire, non protégée par la société, et donc
Ok.
Tu vois ce que je veux dire?
Bah, ouais, je vois, mais en fait, je crois vraiment que pour le coup, bon, c'est pas son propos à Morgane. Okay. Même si je pense que d'avoir des. Enfin, Morgane Merteuil, elle incarne, voilà, les. On va dire qu'elle est en accord avec les revendications du Stras et tout ça. Mais tu vois, par exemple, j'ai pas l'impression qu'elle. Tu vois, elle est pas pour une réglementarisation du métier de prostituée.
Non, il me semble que tu disais que justement, elle voulait pas cette réglementation parce que ce serait un retour aux maisons closes.
Ouais, c'est ça. Enfin, ça, du coup, en fait, ça ferait, enfin, ça protégerait certaines travailleuses, mais ça, du coup, ça en pénaliserait d'autres qui seraient, du coup, qui retourneraient un féminisme.
À une condition
précaire en rapport aux celles qui seraient privilégiées, etc. Donc, elle est plus, je dirais qu'elle a pas utilisé le terme, je dirais peut-être plus pour une forme de libéralisme, pas libéralisme économique, hein, libéralisme au sens, au sens de laisser faire, enfin ouais. de laisser les services se donner et se recevoir, enfin se vendre et s'acheter, etc. Voilà, j'ai l'impression que c'est davantage et aussi également pour quand même la reconnaissance de leur statut, enfin ça il faut le dire, pour la reconnaissance de leur statut en tant que travailleuse du sexe, pour avoir accès à certains droits qu'elles n'ont pas, enfin du style on peut inviter des clients chez nous quoi.
Ok.
Par exemple.
Après, étudier quel avoir genre de statut elle pourrait avoir exactement.
Ouais, voilà. Elles ne veulent pas, par exemple,
sans qu'il y ait recréation de maison close, mais qu'elles soient considérées comme des travailleuses, disons, comme des professions libérales, par exemple.
Ouais, justement.
Ou
je pense pas que ça
ne serait pas
là.
Ce niveau-là non plus.
Ouais, non, je crois pas. Je crois pas parce que, en fait, ça serait plus leur reconnaître certains droits. Et leur reconnaître un statut de travailleuse, mais j'ai pas vraiment, je sais pas exactement, pas aller jusqu'à la réglementarisation des services qu'elles donnent, enfin qu'elles vendent.
Donc à étudier.
Ouais.
Mais c'est une rencontre qui finalement s'inscrit de nouveau dans toute ce nouveau mode de pensée, enfin c'est pas un nouveau mode, mais toute cette pensée féministe, qui s'inscrit en opposition avec des mouvements hégémoniques qui diffusent un seul féminisme et un système de valeurs unique qui serait le meilleur.
Exactement, ouais.
C'est ça. Je pense que c'était finalement ce qui rassemblait ces trois
événements, voilà. Ouais.
C'est dans le même cycle.
Ouais, complètement. Du coup, est-ce qu'on peut peut-être clore l'émission en parlant l'ensemble, en référant un peu l'ensemble des actualités lilloises, et on met peut-être une musique, on revient juste après.
On met une petite, ouais, voilà, c'est ça. On va mettre une petite chanson, donc The Gossip remixé par Le Tigre, Standing in the Way of Control, et on passe à l'actualité lilloise juste après.
Oh,
Donc c'était The Gossip remixé par Le Tigre, Standing in the Way of Control. Donc là on a abordé on a parlé de tous les événements qui se sont passés à Lille jusqu'à ce lundi 4 février et en fait on n'a pas mentionné quelques événements, enfin on n'y est pas allé et mais on va quand même vous dire enfin on y est allé mais on n'en a pas parlé plutôt et du coup on va vous dire un peu lesquels c'était. Donc le jeudi 31 janvier à 14h, il y avait un séminaire à Lille 2 au campus Moulin qui s'appelait Le Genre, un outil incontournable. Ensuite, sinon, quasiment en même temps, de 14h30 à 15h30, à la Madeleine, au Centre Culture et Animation, il y avait donc une conférence de Pierre Kels, donnée par Pierre Kels, qu'il s'appelait L'Angleterre de Victoria, qui portait sur le règne de Victoria et qui croisait, en fait, qui était en lien avec la montée des contestations, parmi lesquelles figurait le féminisme. Et enfin, de 20 à 21h, il y a eu le documentaire d'Emmanuel de Riedmatten qui s'intitule Carole Roussopoulos, pardon, une femme à la caméra. Et donc, qui porte sur là, pour le coup, une figure féministe suisse.
Voilà, donc on vous en parlera dans la prochaine émission de radio, vu qu'on n'a pas eu le temps à celle-ci. C'était tout, Suzanne, non ?
Oui, c'est ça, c'est tout.
Et moi, je vais vous parler maintenant des événements à venir. Donc, premièrement, le 10 février, à 18h, au Cinéma L'Univers, donc sur Lille, la projection de « Au fond des bois dormants » de Marion Véraud, qui est un documentaire de 52 minutes sur le football féminin. Donc, si ça vous intéresse, on pourra peut-être pas y aller, mais si on y va, on vous en parlera à l'émission qui viendra, la prochaine. Aura lieu également le 14 février une journée d'études à la Maison de la Recherche de Lille 3 qui s'intitule « Les espaces sexués, les représentations sexuées dans l'espace romanesque et théâtral ainsi que dans l'environnement historique et social qui les sous-entend ». Donc c'est toute la journée, c'est à partir de 9h et c'est organisé par le collectif Cécile, c'est un groupe de recherche. À la Maison de la Recherche à Lille 3, donc. Et le jour suivant, le 15 février, si vous avez envie de manger de la conférence et du séminaire, vous pouvez faire les deux journées. Donc un séminaire, pareil, qui commence à 9h du matin, qui s'intitule « Genre et déconstruction des espaces genrés ».
À la Maison de la Recherche.
À la Maison de la Recherche, toujours, et toujours organisé par le groupe de recherche Cécile. Donc c'est les deux commencent à 9h, on vous invite à y aller. Et il y avait un événement le 27, Suzanne, je pense.
Ouais, le 27 février, c'est l'ouverture du festival Désordre qui a été organisé par l'association Rencontres Féministes. Et ce festival ouvre par la projection de Mutante du Punk Porn Feminism de Virginie Despentes à l'Hybride. Voilà. Et donc c'est à 20h si je me trompe pas.
Voilà, donc c'est les événements où on vous invite à aller et où nous espérons iront aussi.
Voilà, donc si vous voulez, on se retrouve dans 15 jours, le 18 février. Et d'ici là, si vous voulez podcaster notre émission, vous pouvez nous retrouver sur le site de RCV, www.rcv-lille.com, ou alors directement sur notre blog, le blog de l'association Genrage, G-E-N-R-A-G-E, .wordpress.com dans lequel blog sur lequel vous pourrez trouver également l'agenda des événements lillois. Voilà, donc on se retrouve à dans 15 jours.
À très bientôt.
RCV 99 FM.